la première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Pouvez-vous me décrire les images qui passent sur cette musique
Donc on est devant un quadriptyque, on dit ça, un quadriptyque, avec d'une part du feu, des enfants qui courent sur un chemin qui a beaucoup été piétiné par d'autres avant eux, avec des jeux de mains, des jeux d'enfants, des jouets, des symboles de pétales, du temps qui passe, du labyrinthe... d'un chemin de pèlerinage. En même temps, on voit des images de billes, de jeux d'enfants qui sont toujours cette petite chose, cette boule bleue qui roule. Et puis des fleurs, des papillons, des âmes, une femme enceinte, est-ce qu'elle perd son enfant ? Chacun pourra trouver quelque chose à en penser. Voilà, cette fameuse Fanny Ardant, de nouveau, cette actrice qui est là. Qui joue, se joue d'un papillon, qui joue avec la vie, avec la mort. C'est tellement dans un fouillis de verdure.
Agnès Guillaume, plasticienne. Au château de Chimay. Au musée des Beaux-Arts de Bruxelles.
Les papillons. Les âmes, je pense. Bill Bocquet. T'as une chance sur deux que ça marche pas. Oups, ça va pas. Puis c'est de l'expérience qui fait que finalement tu vas peut-être y arriver, mais c'est pas sûr. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup de dextérité, qui à force d'essayer, on finit par y arriver. Voilà, on va y arriver. Ça va tomber, on va se casser la figure, on va se prendre un gadin, on va se prendre une porte, on va se prendre un cul-de-sac, et puis finalement, on va peut-être y arriver. C'est peut-être à force de se prendre des gadins qu'on y arrive, justement. Mais ce labyrinthe qui en fait est un chemin obligatoire pour aller vers quelque part. Voilà le petit cheval. Ça, ce petit cheval, ce petit yearling, c'est un petit cheval qui a moins d'un an, un jeune cheval. C'est le cuir le plus tendre, cette petite balle bleue qui roule. Ça, c'est le rêve avec tout l'imaginaire. C'est la boule bleue, le bleu de l'eau qui pleure. Oh là là, c'est tellement, c'est terriblement intrusif de raconter ce qu'on voit, parce qu'on raconte sa vie quand on parle tout haut devant une vidéo pareille.
Agnès Guillaume, plasticienne, avec Anne de Rouvor, Pierre-Yves de Sèvres, Caroline Lamarche et Agnès Guillaume. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Elle est au cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, me tento, me tento, stelé.
Le monde invisible.
Et alors après, on prend de la hauteur. Et puis là, il y a quelque chose de magique au milieu, mais on n'a pas bien vu ce que c'était. C'était une image. Il y a quelque chose qui arrive encore. On a cru qu'on a vu, mais on ne l'a pas bien vu. Et finalement, le rouge, on le retrouve au milieu. Et on comprend pourquoi on a fait tout ce chemin. En fait, tout était là et on ne l'avait pas vu. Et puis autour, il y a toujours le petit cheval, le jeune petit cheval fougueux qui fait le tour. On va le voir arriver à la fin. Et celui-là, il tourne en rond et il n'a pas compris qu'il y avait une ouverture. C'est tellement facile. C'est tellement facile de ne pas y aller. C'est tellement facile de contourner. Non ?
On a reproduit sur le sol et sur les murs le labyrinthe de la cathédrale d'Amiens dans lequel j'ai tourné un des plans de la vidéo, qui est d'ailleurs pas un labyrinthe mais un chemin de Jérusalem. Et c'était pour moi très important que les visiteurs du château, parce qu'ici au château, ce sont plutôt des visiteurs qui viennent visiter le château et qui tombent sur une exposition d'art contemporain, que ça soit quelque chose d'extrêmement joyeux et ludique, et que ce labyrinthe dans lequel ils peuvent entrer leur laisse un souvenir fort, visuel, et leur montre aussi que l'art contemporain peut être accessible.
Agnès Guillaume, plasticienne, au château de Chimay jusqu'au 15 octobre. Il y a la question de la culture qui se pose depuis plusieurs années, et cette année-ci, une vidéaste qui s'appelle...
Agnès Guillaume, oui. Une femme étrange, une femme qu'il faut rencontrer, parce que la première fois qu'on la voit, elle est un peu particulière, je trouve.
Agnès Guillaume, qu'est-ce qu'un chemin de Jérusalem ?
Alors, il y a, dans les labyrinthes, il y a trois labyrinthes différents, pour autant que je sache. Il y a le vrai labyrinthe qui est fait pour se perdre, où l'on cherche longuement la sortie. Celui dans lequel j'ai tourné ma vidéo, c'est le labyrinthe du parc de Thoiry, pas très loin de Paris, en région parisienne. C'est un labyrinthe qui est déjà assez ancien et les murs de verdure montent à 3-4 mètres. Je peux vous assurer qu'on s'est perdu et reperdu. On est accroché sur les murs des petites pancartes avec des signes parce qu'on se perdait. Il y a des petits ponts de temps en temps dans le labyrinthe. On monte sur le pont, on voit tout du haut, on se dit « Ah oui, je redescends ». On est redescendu, on ne sait de nouveau plus où on est. Après 3 jours de le tournage dans le labyrinthe, je ne le connaissais toujours pas. Donc ça, c'est le premier labyrinthe.
Agnès Guillaume, plasticienne, au château de Chimay, au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Au plus je lui parle, au plus je la vois, au plus je la fréquente, au plus je l'aime et au plus je la comprends. C'est une femme qui a une culture, un sang, qui coule dans ses veines, qui sont assez... De par les études qu'elle a faites, de par les recherches, de par les moyens de communication qu'elle a fait pour crier ce qu'elle pense, et qui est en fait ce que tout le monde pense, peut-être à des niveaux de lecture différents. Elle serait fâchée hein, quand je parle d'elle comme ça, parce que je crois qu'elle a trouvé le moyen d'exprimer une souffrance collective, quelque chose qu'on ressent tous, mais qu'on ne sait pas vraiment dire. Et avec toute la symbolique qu'il y a autour de tout ce qu'elle dit, c'est assez génial en fait, hein, parce qu'il y a un fil conducteur et moi je vais voir des choses que vous n'allez pas voir, que d'autres vont peut-être voir. Il y a des espèces de choses qui se croisent comme ça, qui reviennent dans ces travaux différents. Je pense à une boule bleue.
Après ça, on a ce qui ressemble à un labyrinthe, mais qu'on appelle le chemin de Jérusalem, qui est en fait, il y a une entrée. Et on fait tout le tour, si on suit, on fait tout le tour, jusqu'à arriver au centre. Donc on s'en approche, on s'en éloigne, on s'en réapproche, on s'en rééloigne. Et en fait, c'était au Moyen-Âge, il y avait ça dans les cathédrales, ça permettait aux gens qui ne pouvaient pas aller en pèlerinage jusqu'à Jérusalem de faire un pèlerinage. Donc ils faisaient ça à genoux, ils faisaient tout le... je ne sais pas combien de temps ça leur prenait, quelques heures ou je ne sais pas, 2-3 heures. Et c'était comme un pèlerinage de Jérusalem.
Il y a des billes bleues, il y a des balles bleues, il y a cette espèce de balle dans cet oignon qu'on pèle, il y a des couches qui s'ouvrent, qui se ferment, des choses qui font pleurer, des choses qui émerveillent. Il y a cette souffrance latente, mais cette résilience aussi de savoir que c'est comme ça, et ce chemin, cette quête, et finalement une femme qui est assez en paix avec elle-même et qui est assez juste et qui nous donne à voir des choses que selon les jours on les regarde, on les voit différemment.
Et alors le troisième type de labyrinthe que j'ai utilisé aussi dans ma vidéo, donc j'ai utilisé les trois dans ma vidéo, c'est le mandala, et là c'est une forme ronde, hein, ça vient de l'Inde, avec un dessin régulier à l'intérieur, et là aussi on ne peut pas se perdre dans celui-là, mais c'est fait pour aller vers le centre.
Il y a aussi trois types de labyrinthes, un labyrinthe souterrain, tel que la mythologie nous la renvoie, avec le fil d'Ariane,
oui.
Un labyrinthe à ciel ouvert,
Oui.
Et le troisième labyrinthe, type de labyrinthe, est un labyrinthe en ligne droite où le temps fuit.
Et je suis fière qu'on l'ait à Chimay, et je suis encore plus fière que ça complète cette collection d'expositions qui sont données ici à voir à Chimay.
Dans cette vidéo, il y a toute une série d'enfants qui jouent dans ce labyrinthe, dont on ne les voit pas sortir et dont on pressent qu'ils ne connaissent pas la sortie. Et puis il y a une petite fille qui, elle, est un peu en retrait et on sent qu'elle est en train de faire ce passage. Et d'ailleurs, dans la vidéo, elle va sortir du labyrinthe. Et à sa sortie du labyrinthe, elle n'est évidemment plus la même que la petite fille qui jouait avec les autres et qui, eux, sont restés dans le labyrinthe. La sortie du labyrinthe est une vraie étape.
J'ai rencontré ici au château de Chimay Anne de Rouvre. Qui est-elle à vos yeux ?
Notre relation a commencé il y a 7 ans.
Il y a quelque chose dans la mythologie, et puis elle a fait des études de philosophie aussi. Tout ça est lié. Une boule qui roule, quelque chose qui de toute façon va avoir lieu. Et ça va avoir lieu. Et il y aura peut-être des pierres d'achoppement, il y aura peut-être des événements qui vont se passer, mais ça va continuer inexorablement. Ça ira où ça doit. Qu'est-ce que je vois encore comme image ?
Mais l'année dernière, elle m'a dit est-ce que tu viendrais exposer à Chimay ? Je vais en parler avec les princes de Chimay. Est-ce que pour toi c'est OK ? Et quand je lui ai dit, après avoir visité les lieux et après avoir compris quel était le public que j'envisageais de mettre cette vidéo-là, je pense qu'elle était très très contente. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit.
C'était une rencontre, vraiment. C'était une proposition d'exposition qui est venue de l'artiste elle-même, que je ne connaissais pas, je dois bien le dire. En étudiant son travail, en voyant ses différents projets d'exposition dans le passé, en la rencontrant surtout, parce que nous nous sommes beaucoup vus, nous avons beaucoup discuté, elle m'a vraiment expliqué en détail toute sa démarche. J'ai trouvé son travail vraiment très intéressant.
Agnès Guillaume, plasticienne. Au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles jusqu'au 28 juillet.
Alors moi, je ne connaissais pas l'œuvre d'Agnès Guillaume, mais elle est venue vers moi, je pense, par connaissance interposée. Elle ne connaissait pas vraiment mon travail non plus, donc on s'est découvertes. Et elle m'a confié, parce que les 3 autres volets de sa quadrilogie, je dirais, de vidéos, étaient déjà prises. Elle m'a confié la vidéo intitulée « My Fears », donc « Mes peurs ». Et j'avoue que c'était peut-être celle qui me semblait me convenir le moins. Je trouve magnifique, très onirique, ces vidéos « My Nights »,« My Thoughts » and « My Roots », qui a quelque chose de, à la fois de poétique, de grouillant. La vidéo « My Thoughts » sur les méduses, qui moi me fascine, est d'une beauté, d'une poésie intense. Et « My Fears » me semblait difficile à traiter, puis encore un sujet un peu... érotique, avec une mise en scène du corps. Et donc j'ai un peu hésité. Et comme toujours, je me suis mise au travail en me disant, on va voir ce que la page me dit. Et le texte est venu de manière très heureuse et très limpide. Et elle en a été fort contente. Et donc pour moi, c'est vraiment une chance, un privilège d'être présent dans cette exposition que j'ai été voir et que je trouve d'une très grande beauté, intelligence. Et comme il s'agit d'une exposition dans le cadre du musée d'art ancien...
Agnès Guillaume, peut-être de choisir un texte que vous avez convoqué, non pas le texte, mais l'écrivain, homme et femme.
Oui. Alors il y a une vidéo que je n'avais pas vue et qui m'a vraiment plu, que j'ai trouvé très belle, c'est « You said the love is eternity ». Qui est un triptyque.
Je crois qu'au départ, je suis très littéraire. J'ai toujours aimé lire, j'ai écrit depuis mon plus jeune âge. Et donc, la relation à l'écriture est très importante. Je pense que l'écriture et la lecture ont été mon univers pendant très longtemps, en dehors de l'univers dans lequel on on vit tous les jours. Et à partir du moment où il y avait cette exposition ici, et ces quatre vidéos qui forment un ensemble cohérent et assez fort, il me semblait que c'était très important de les mettre en relation avec des écrivains.
Le corset blanc mime le corps, corps stylisé, magritien, corset à la Frida Kahlo, corset pour corps caché, brisé peut-être, mais sans le secours des motifs peints, faucille, marteau, fleurs, cœur, oiseau, ex-voto naïf, dont sornait autrefois la douleur, non, rien de tout cela. Sein ironique et tranquille, gros point rouge, nombril au centre d'une cible, mais innocent, discret, factice. Rien jamais n'en sortira. Ceci n'est pas un trou.
En plus de ça, j'ai demandé à tous les écrivains d'écrire de façon très libre, à partir de la vidéo, mais la forme qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Et je trouve que les quatre ont réussi à écrire, je dirais, un texte qui est en parallèle, je dirais, avec le fond de la vidéo, mais qui emprunte la forme du thème de la vidéo.
Pourtant, une souris en émerge, puis une autre, blanche sur blanc, avec leurs prunelles rouges, leur queue annelée, leur curiosité innocente, l'innocence de qui ignore son destin. Quelqu'un les désire et les craint, quelqu'un les éliminera, elles seront écrabouillées, gazées, cassées en deux par le piège, jetées vivantes dans l'eau bouillante, données au chat, au boa.
Les quatre vidéos s'appellent « My nights, my fears, my thoughts and my roots », donc mes nuits, mes peurs, mes pensées et mes racines. Et je dirais que Caroline Lamarche, par exemple, a écrit sur « My fears » un texte qui à la fois joue avec la peur, apprivoise la peur, mais dans la forme.
Cependant, elle s'obstine, comme à la promenade. Jolie promenade en famille, on explore sans trop s'éloigner. On a faim, en réalité.
Marie-Laure de Cazotte, qui a écrit un texte sur My Roots, qui est une vidéo très terrienne, puisqu'elle représente des pieds et des larves de cétoine sous terre, l'interaction, donc là, vraiment ce qui nous forge, ce qui nous fait devenir nous-mêmes. Et Marie-Laure a écrit un texte avec une écriture extrêmement terrienne. Donc, et la forme et le fond vont avec les vidéos. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Marc Lambron, qui écrit sur My Thoughts, mes pensées, a écrit un texte qui est une ébullition. C'est vraiment des pensées qui partent dans tous les sens. Et ça, c'est très bien. Et Paul Ardenne avait écrit, il y a déjà 2-3 ans, un très beau texte plein d'envol, je dirais, sur les nuits.
Dès le départ, j'étais séduit par l'énorme travail qu'elle fait autour de la couleur, de la qualité de l'image et cette volonté finalement d'aboutir à une image en mouvement qui est vraiment d'une qualité picturale, qui renvoie vraiment à la couleur d'un tableau de grande dimension. Alors on rigole beaucoup avec ça parce que je lui avais parlé de la peinture d'histoire et c'est un terme qu'elle n'aimait pas parce qu'elle pensait que je l'envisageais sous l'angle passéiste. Mais ce dont je voulais parler, c'est plutôt de l'effet strictement pictural dans un premier temps que peut produire un tableau de grande dimension et que peuvent produire ces images également. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de reproduire ici dans l'exposition.
Pourquoi ce médium-là, Agnès Guillaume ?
Si je le savais, peut-être que je ne le ferais pas. Il m'est tombé dessus. Un jour, ça s'est imposé à moi, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2010.
L'exposition a un titre un peu mystérieux dans un premier temps, c'est « Four Mice Plus », donc 4 MY'S et un plus. C'est un titre qui renvoie exactement à ce qui est montré, donc 4 vidéos qui débutent toutes par un « my »,« my thought »,« my root », donc mes pensées, mes nuits, mes racines. Au centre de cette exposition, donc de cet ensemble de 4 installations vidéo, il y en a une 5e, donc c'est le petit plus en question.
Un jour, j'avais vu des images, ça m'était jamais arrivé, mais j'avais vu ce jour-là des images et j'avais pris note. Et 10 ans après, je les ai ressorties et je me suis dit, ah, j'ai envie de faire ça, ne sachant pas ce que c'était, ne sachant pas si c'était un court-métrage, je ne pensais même pas à la vidéo à ce moment-là. Et puis, je demandais à un copain qui était dans le cinéma, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que je peux faire ça? Il me dit, bah oui, vas-y. Je lui dis, ouais, comment? Et en quelques mois, ça s'est fait, que je me suis retrouvée un jour en septembre 2010, premier jour de tournage de ma vie. J'avais jamais été sur un tournage, je ne savais pas comment ça se passait, avec une quarantaine de figurants et une économie court-métrage, je dirais, parce qu'il y avait une équipe technique de jeunes de 15 personnes, mais sachant déjà que c'était une vidéo qui était sur 4 écrans et qui n'avait rien à voir avec un court-métrage, parce que dès le départ, ce que j'ai fait n'était pas vraiment narratif. Un court-métrage, c'est narratif. C'est la vraie différence, je dirais, entre le cinéma et la vidéo, c'est que la vidéo n'est pas narrative.
Les quatre sont donc unifiés par cette notion de maille. Donc il y a ce côté introspectif, ce côté « je vais vous montrer finalement quelque chose de moi ». Mais au-delà de ça, il y a le côté, je trouve, très universel des images. Lorsqu'elle dit « my nights » ou « my thoughts », alors « my nights » qui montre son visage en fondu, qui apparaît, qui disparaît, et puis des nuées d'oiseaux noirs, bleutés, très inquiétants. On pense évidemment au cauchemar, on pense à la nuit, mais il y a quelque chose de quasi archétypal au sens psychanalystique du terme. Ce sont des sentiments, des impressions qui touchent vraiment à l'universel. My Fears, mes peurs, par exemple, est une vidéo qui n'est pas facile à expliquer, ça j'y viendrai plus tard, parce que ce sont des constructions visuelles qui sont très complexes, et puis il y a un énorme travail de post-production. Mais My Fears montre en fait le corps de l'artiste en contact avec des souris blanches. Alors évidemment, on pense tout de suite à la peur des souris, à tout ce que l'on peut tirer comme conclusion peut-être un peu hâtive autour de la psychanalyse, parce que finalement, est-ce que ça vraiment renvoie à ses propres peurs? Il y a toujours un deuxième discours derrière celui-là. Elle amène des images et elle invite vraiment le spectateur à se projeter dans ces images-là.
J'utilise beaucoup la juxtaposition, qui est pour moi le langage poétique par excellence.
Pierre-Yves de Sèvres, nous sommes dans les musées royaux à Bruxelles, rue de la Régence. Et je dis ça à dessein parce que je pense à l'histoire de l'art et je pense au mouvement symboliste. N'y aurait-il pas apparentement?
Je ne me suis pas posé la question. Maintenant, effectivement, qu'elle vient sur le tapis, je dirais « why not ?» Pourquoi pas ? L'attirance d'Agnès Guillaume, en tous les cas, ses accointances esthétiques, si on peut parler comme ça, ne vont pas forcément vers le 19e siècle. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être d'un peu trop démonstratif dans la peinture symboliste pour véritablement faire écho à sa peinture. Très franchement, si je devais faire des parallèles, je penserais plutôt, alors peut-être pas par rapport aux pièces qui sont montrées ici, mais j'en ai vu d'autres qui ne sont pas exposées, je penserais plutôt à la peinture de la Renaissance. Il y a quelque chose dans la construction extrêmement rigoureuse, pas forcément géométrique, mais la géométrie joue quand même un rôle assez important, qui pour moi m'évoque davantage la peinture de la Renaissance. Comme je le disais, c'est ça aussi qui me plaît dans le fait de montrer une artiste contemporaine qui travaille la vidéo, qui travaille le film, dans un musée des beaux-arts. Elle est musicienne de formation, elle a beaucoup travaillé dans le domaine de la littérature, du théâtre, mais c'est vrai que ce goût pour la musique se retrouve dans son travail, parce que j'ai parlé des images mais pas du son. Or le son joue vraiment un rôle absolument central dans la contemplation de l'image, la bande-son est toujours très travaillée, elle fait intervenir de la musique, des bruitages, elle fait intervenir sa voix, la propre voix de l'artiste parfois. Lorsque nous avons monté l'exposition, puisque les quatre vidéos sont présentées dans un même espace, un espace très grand, certes, mais un espace qui peut poser des problèmes en termes d'acoustique, notamment, moi j'ai tout de suite soulevé la question du son. Je m'inquiétais un peu que l'une vidéo parasite l'autre, etc. Et dès le départ, on est tombé d'accord sur le fait que non, on allait jouer là-dessus, en fait. On allait jouer sur le fait que finalement, puisque ces quatre vidéos se répondent, puisqu'elles créent un ensemble, vraiment, alors il est normal que le son fasse qu'elles interagissent l'une avec l'autre également.
Je suis musicienne au départ. Ma formation de musicienne, je l'utilise énormément dans la vidéo, à la fois pour le rythme, à la fois pour la justesse. La justesse est très importante pour moi, pour l'harmonie aussi, pour comment faire quand on a plusieurs écrans, comment les faire jouer ensemble, j'allais dire chanter, mais que ça marche, c'est pas très loin d'un contrepoint.
Vous avez, Pierre-Yves Dessèvre, parlé de psychanalyse.
Cette dimension onirique, elle est très présente. Maintenant, moi, personnellement, je ne veux pas trop rentrer dans l'analyse de ces images. Comme je le disais, j'y perçois naturellement. Cette dimension onirique renvoie effectivement à la psyché, renvoie à l'introspection, mais je ne veux pas trop rentrer dans l'interprétation par rapport à cela.
J'utilise toutes sortes de sons, des sons pris bidouillés, de la musique qui existe bidouillée, enfin, elles sont bidouillées, mais les bandes sont.
Par contre, ce que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est qu'au-delà de cette dimension onirique, il y a cette nécessité pour le spectateur de vraiment regarder.
Agnès Guillaume, on attend...
Pierre-Yves Dessèvre, mon commissaire, donc qui est le conservateur de l'art contemporain ici au musée, et avec lequel nous avons vraiment construit cette exposition. C'est une chance, c'est un spécialiste de vidéo, donc nous nous sommes retrouvés là-dessus. Et c'est très important d'avoir un bon commissaire pour une exposition, surtout une exposition de cette taille dans cet endroit, parce que c'est important de pouvoir confronter ses idées, ses envies avec quelqu'un qui a l'habitude d'une grosse machine comme ici.
Quand vous ne tournez pas des vidéos, comment travaillez-vous, Agnès Guillaume ? J'imagine que vous photographiez ?
Non.
Jamais ?
Jamais. Oh, comme tout le monde, avec mon iPhone, des petits trucs comme ça. Non, je suis pas photographe. Je ne suis pas photographe. En revanche, ce que je fais quand je ne tourne pas, quand je ne fais pas de post-production, et voilà, je fais des œuvres sur papier à partir de mes vidéos. Donc ça part en général d'une impression, et puis je retravaille cette impression.
Agnès Guillaume, plasticienne. Au château de Chimay. Au musée des Beaux-Arts de Bruxelles.
On ne sait plus trop ce qui est dans l'image réelle, ce qui a été complètement retravaillé en post-production. Ces oiseaux, sont-ils des oiseaux, sont-ils des animations ? Ces souris bougent d'une manière tout à fait imprévisible, mais en même temps de manière tellement naturelle que l'on... On a tendance à ne pas percevoir la normalité, anormalité de leur mouvement. Il y a donc un travail qui est très complexe de post-production et qui oblige vraiment le regardeur à se poser des questions. Et je pense que c'est toujours très très salutaire, vu l'époque dans laquelle nous vivons, qui est saturée d'images fixes, d'images animées. J'aime toujours beaucoup ces objets visuels. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent être.
Agnès Guillaume, plasticienne. Avec Anne de Rouvre, Pierre-Yves Dessèvre.
Il y a deux parties dans l'exposition, les vidéos, mais également des images qui sont tirées des vidéos et qui ne sont pas du tout de simples impressions, sont vraiment des objets à part entière qui ont été retravaillés avec des matières très diverses. Ça peut être de la terre, mais ça peut être aussi des retouches au pastel. Et dans un premier temps, on a le sentiment que ce sont des images fixes, des images telles quelles, tirées d'un film. Et si vraiment on prend le temps du regard, alors on va se rendre compte de la différence et du travail qui était apporté sur ces images-là.
Et donc cette vidéo sur l'amour, on voit un triptyque avec la main d'un homme, la main d'une femme qui se touche.
Je vais rencontrer Caroline Lamarche.
Oui,
vous la connaissez ?
Je l'ai rencontrée ici dans l'exposition. Je ne connaissais pas du tout ses écrits. Et nous avons parlé de son travail autour de Berlin de Breuker, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup cette rencontre.
Et l'homme dans le triptyque de gauche, tient un caillou précieux dans la main, tout rond, tout parfait, qui est un peu l'image de l'éternité. Et la femme, dans le volet de droite, épluche un oignon.
Agnès Guillaume, plasticienne.
Je pense qu'aujourd'hui, la question se pose en fait de savoir si la notion même d'art vidéo est encore pertinente. Nous avons une collection d'art vidéo qui comporte des œuvres, par exemple, de Douglas Gordon, de Nicolas Provost, de Stan Douglas. Et dans la classification de ces œuvres, simplement dans notre base de données, elles sont reprises dans le domaine de la sculpture, parce que ce sont des objets qui nécessitent un espace particulier, qui nécessitent une dimension, une manière d'être exposé particulière. Donc ça paraît un peu étrange, peut-être vu de l'extérieur, mais c'est en fait, ça répond à une cohérence muséale. Et je pense que d'un point de vue artistique et d'un point de vue esthétique, nous vivons aussi cette époque où finalement l'art vidéo, tel qu'on l'a connu dans les années 70, qui exprimait en fait la volonté des artistes de s'emparer d'un mass-média, qui était la télévision, et finalement de s'approprier les moyens de production de l'image grâce aux nouvelles technologies. Mais cette idée-là n'existe plus. Les jeunes artistes que je côtoie aujourd'hui, là, notamment à La Cambre où j'enseigne, l'atelier de sculpture, c'est un très bon exemple, fait autant de place à la vidéo qu'à l'installation ou qu'à la limite même qu'à la performance. On parle de ère post-internet dans la mesure où l'internet aujourd'hui n'est plus une nouvelle technologie, il est omniprésent dans nos vies quotidiennes et les artistes s'en emparent et l'utilisent comme un média parmi les autres. Et la vidéo, c'est encore plus présent. Le temps a vite passé, finalement, entre le milieu des années 60, l'apparition des premières caméras vidéo Sony, et aujourd'hui, où sur un téléphone portable, on a une résolution qui est juste hallucinante, qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a quelques années. Et cela pousse donc des artistes qui, a priori, ne seraient pas vraiment tentés par l'expérimentation vidéo à s'en emparer et à l'utiliser.
Et puis, il y a toutes ces méduses qui sont ces symboles de, oui, d'une geisha. En même temps, une méduse peut vous électrocuter et on peut en mourir. Mais j'ai lu récemment qu'une méduse avait le pouvoir de faire revivre.
Pour moi, c'est à la fois lumineux et mystérieux. Et l'amour est quelque chose que l'on voudrait éternel. Et en même temps, le temps fait qu'il se dépouille de différentes couches, avec une précision, une lucidité dans le geste d'Agnès Guillaume, puisque ce sont ses propres mains, avec le couteau. Donc, toujours chez elle, et ça me plaît beaucoup, il y a cette ambivalence entre la tendresse et la cruauté, y compris dans les vidéos d'ailleurs sur mes nuits, mes peurs, mes pensées, mes racines. Il y a une dimension autobiographique et en même temps il y a une dimension narrative et onirique. Et à ce titre, je pense que c'est une belle rencontre parce qu'on a des univers assez proches finalement et vraiment très, très visuels.
Toujours elle est toujours représentée dans ses songes, dans ses My Night, là, cette magnifique vidéo où on voit de nouveau, elle est en diaphane comme ça, très blanche. Il faut savoir qu'elle est là, mais elle est toujours là.
Il y a un travail sur l'autre d'ailleurs qui est très présent parce que c'est vrai que les quatre vidéos principales commencent par Mai, mais au centre il y a un triptyque vidéo qui est un objet très impressionnant et qui évoque vraiment là le triptyque au sens de l'histoire de l'art. Et le titre est différent également, c'est « You said love is eternity », donc le « je » devient le « tu ». Donc là il y a vraiment un rapport à l'autre et cette vidéo montre un jeu de mains.
Particulièrement dans le triptyque, You said love is eternity. Certes, c'est l'éternité, mais c'est en même temps le temps qui s'écoule et qui dépiaute la relation, qui la met à nu, à vif. Et alors, dans les deux mains qui se touchent et qui se caressent, il y a quelque chose. D'abord, il y a une perfection visuelle et une espèce de velours de l'image qui fait penser au tableau ancien. Et alors, dans la position des mains, moi, ça m'a fait penser au tableau des primitifs flamands où les époux sont ensemble et le peintre les représente la main de l'un posée sur la main de l'autre. C'est le même geste, sauf que chez Agnès Guillaume, il est en léger mouvement. Il y a une caresse, puisqu'on est dans la vidéo. Et ça me fait penser aussi aux pierres tombales avec les mains gravées dans la pierre des deux époux. Quand je repense à ces vidéos, j'y découvre chaque fois comme l'oignon des nouvelles couches, en fait, et qui sont des couches d'histoire de la peinture et en même temps de l'intimité de la femme, de l'artiste qui se met en scène dans ces vidéos. Et puis, quelque chose aussi qui me touche quand même beaucoup, c'est le végétal et l'animal constitutif de la représentation des actes humains, des rêves de l'humain, des pensées de l'humain et des racines de l'humain. Et donc, il y a là un continuum qui m'est très familier aussi et que j'ai mis en scène d'ailleurs dans mon dernier livre, Nous sommes à la lisière, et c'est tout un travail, Agnès Guillaume, qui parle de nos lisières avec le monde entre hommes et femmes. Entre le temps présent, le temps de l'intimité de la vie aujourd'hui et les grands référents picturaux, et puis aussi la lisière entre le monde animal, végétal, le monde humain, et tout ça me semble vraiment très riche. La dimension narrative me plaît, c'est ce qui m'a permis aussi d'écrire mon texte. J'ai raconté une sorte de petite histoire sur ces souris qui surgissent et immédiatement, ça m'a fait penser à cette fameuse légende allemande du joueur de flûte qui sauve un village en emmenant les rats, donc les peurs des habitants. Et les habitants sont ingrats, ne le remercient pas et le joueur de flûte revient et emmène les enfants. Voilà, donc il y a cette couche d'interprétation là aussi, en tout cas dans ce que j'ai saisi à propos de la vidéo qui m'a été confiée par Agnès Guillaume. Après, il y a les broderies aussi à l'étage.
Là, il y a vraiment l'intervention d'un personnage extérieur. Il y a un jeu de main, un jeu autour de l'amour, autour de la relation à l'autre. Et puis il y a aussi les portraits qu'elle a réalisés, des broderies qu'elle a réalisées, qui sont des portraits d'hommes connus ou inconnus. Ça pouvait être des gens qu'elle a rencontrés et qui ont accepté de poser pour elle, et qui vont poser entièrement nus pour elle. Et elle en réalise des portraits qui sont assez réalistes, qui ne se veulent pas flatteurs, donc brodés sur des toiles de coton assez épais. Et dans un deuxième temps, elle va ajouter des objets, des éléments de décor, voilà. Le personnage avait une pose qui lui a donné l'idée de lui adjoindre un fouet, par exemple, où le personnage était appuyé contre une bibliothèque. Et dans l'œuvre finale, ça va devenir une échelle de cordes tressée. Donc c'est assez intéressant parce que finalement, ces gens qui sont portraiturés ne savent pas vraiment ce qu'il va devenir de leur portrait. Donc c'est aussi une sorte de pouvoir que prend l'artiste sur le portraituré. Bon, tout ça avec beaucoup de bienveillance, hein, attention. Mais c'est à la fois très réaliste et en même temps, de nouveau, très onirique, parce que ces personnages peuvent se retrouver pris sous une énorme boule à neige, par exemple, ou perchés sur un champignon géant.
Dans la prolongation de la vidéo que j'ai traitée, c'est-à-dire « My fears », mes peurs, on voit un visage en gros plan, on voit la bouche qui s'ouvre, les dents qui apparaissent, et puis c'est le cri. C'est un cri silencieux, mais c'est quand même un cri d'épouvante en raison de ces souris blanches charmantes qui sont en train d'escalader ce corps. Et cette bouche maquillée de manière assez épaisse, en tout cas le grain de la photo... Je dis maintenant la photo parce qu'Agnès Guillaume les a aussi présentées sous forme de photo à l'étage. Donc ces détails grossis m'ont aussi impressionné. Et j'ai pensé subrepticement que si on retournait ces bouches Si on les mettait à la verticale, ça ferait penser à un sexe de femme. Et ce serait aussi très beau. Et donc, voilà encore une couche d'interprétation qui est la dimension érotique, qui n'est pas exposée brutalement ou de manière trop évidente, mais qui est quand même bien présente.
On a le firmament avec la Voie lactée et des tas d'étoiles. Les astres, je dirais, les planètes sont des méduses. Ils font tout un ballet dans le ciel. Et moi, j'apparais à l'image en interaction avec ces méduses. À un moment, je sors d'une méduse. À un autre moment, je saute. Là, par exemple, devant moi, je suis en train de rebondir sur une méduse qui me fait rebondir à chaque fois dans le firmament. À un autre moment, je disparais.
Après MeToo, on ne sait plus trop comment parler de l'interaction entre l'homme et la femme, du rapport à la nudité, du rapport au corps. Et là, qu'elle se soit emparée de la broderie, qui est un travail éminemment féminin, pour représenter, je suppose au départ de photos d'hommes qu'elle a sollicitées, représenter des hommes nus avec leur corps imparfait. J'ai trouvé ça drôle, très raffiné et très tendre, témoignant d'une très belle confiance aussi de ces hommes qui se sont laissés représenter par la broderie. À vrai dire, j'aurais accepté tout de suite, parce que le résultat est vraiment très beau, et il y a aussi des ajouts de tissus en forme de fleurs ou de végétaux qui en font, par moments, en plus sobre, mais presque des images qui font penser un peu aux fleurs ou végétaux de Frida Kahlo. Donc visuellement, c'est très beau. Alors ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait sourire aussi.
Nous jouons avec nos pensées, que c'est quelque chose d'extrêmement dynamique, la pensée, qui nous fait voyager n'importe où, qu'on peut se perdre aussi dans la pensée, que ici, dans la vidéo, qui est une boucle infinie, donc on ne sait pas très bien quand elle commence et quand elle finit, il y a un moment où il n'y a plus que les méduses à l'écran. Et puis peut-être qu'il y a un moment où je disparais complètement, il y a un autre moment où je sors d'une méduse, alors c'est la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui est là d'abord? Nous, la pensée, nous.
Et puis ça témoigne d'un geste en tant que dessinatrice qui est remarquable. Ils sont très beaux ces portraits d'hommes, d'abord dessinés et puis brodés. En exergue à mon texte sur Agnès Guillaume, j'ai trouvé une phrase de Pierre Gascard dans son livre Les Bêtes. Pierre Gascard, que j'ai cité d'ailleurs aussi en épigraphe de mon dernier livre, mais avec une autre citation. Et je trouvais que celle-ci s'appliquait particulièrement bien à l'univers d'Agnès Guillaume. Donc, extrait de Pierre Gascard, Les Bêtes, paru chez Gallimard. Notez bien qu'il ne viendrait à l'esprit de personne que ces damnées bestioles font partie d'un lot strictement personnel. Donc il s'agit ici, chez Agnès Guillaume, de Souris Blanche. Mon titre, c'est « Où est le joueur de flûte ?» Le corset blanc mime le corps, corps stylisé, magritien, corset à la Frida Kahlo, corset pour corps caché, brisé peut-être, mais sans le secours des motifs peints, faucille, marteau, fleurs, cœur, oiseau, ex-voto naïf, dont sornait autrefois la douleur, non, rien de tout cela. sein ironique et tranquille, gros point rouge, nombril au centre d'une cible, mais innocent, discret, factice. Rien jamais n'en sortira. Ceci n'est pas un trou. Pourtant, une souris en émerge, puis une autre, blanche sur blanc, avec leurs prunelles rouges, leur queue annelée, leur curiosité innocente, l'innocence de qui ignore son destin. Quelqu'un les désire et les craint, quelqu'un les éliminera, elles seront écrabouillées, gazées, cassées en deux par le piège, jetées vivantes dans l'eau bouillante, données au chat, au boa. Cependant, elle s'obstine, comme à la promenade, jolie promenade en famille, on explore sans trop s'éloigner, on a faim, en réalité. Mais pas un brin d'herbe ici, ni une fleurette, pas un coin rassurant de nature où pique-niquer ensemble. Et ce qui rôde, pour les exterminer, n'est pas une fouine, un faucon, un renard, un serpent attendant l'éveil de son appétit, c'est la peur. La peur, la frayeur, l'effroi, la phobie, l'obsession, la panique, la frousse, l'horreur, l'épouvante. D'où le cri. D'abord bouche fermée, les lèvres plissées rythmiquement pour le contenir, ce cri naissant qui laisse encore une chance aux bestioles. Elles trottineront par-dessus comme sur un pli de terrain, ou bien s'éloigneront, rien à trouver ici. Retourneront là d'où elles sont sorties, au nombril du néant, à l'ombilique du rêve. Le cri bouche ouverte, ah ah, c'est autre chose. Il convoque, mine de rien, d'autres images. La bête pénétrant dans le trou, sa copine la suivant, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Allons-y donc allègrement, toute une colonie d'envahisseurs entre les lèvres, dans la bouche, passer la barrière des dents, jusqu'au tube digestif ou à la trachée artère, jusqu'au repli soyeux, aux riches intimes. Alors ça crie si grand, si épouvantablement, grincement de film d'horreur, que l'orifice en devient presque abstrait, anneau de pieuvre, cordon sanitaire indécis, vortex métaphorique. Venez, entrez, je vous aspire et vous hais. Ce qui pourrait leur régler définitivement leur compte, clore les lèvres, puis un bon coup de dent, claque, trou piège, vagin dentelé au fantasme, s'élargit au contraire et palpite à l'infini, sans jamais se décider. Le corset dur, le corps leurre, les appâts stylisés, les lèvres contractées par un frémissement ambigu, tout cela pour finir par hurler dans un excès d'épouvante. « Non, mes jolies et jolies, vous n'entrerez pas chez moi avec vos moustaches caressantes, votre poil si doux, vos petites griffes tendres. Non, 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 il n'en est pas question. » Pourtant, on le sait, à se payer de rouge, de blanc, de pulpe et d'émail, sans jamais vouloir partager ce qui palpite au fond, d'autres suivront, avant-poste d'une invasion, jusqu'au repli soyeux, au riche intime. Où est le joueur de flûte qui les emmènera loin, loin, loin?
Dans la pièce où le labyrinthe est reproduit sur le sol et sur les murs, en plus des quelques œuvres qui sont accrochées au mur, j'ai imprimé simplement sur un papier autocollant quelques-uns des éléments qu'on retrouve dans le labyrinthe. Il y a donc un bilboquet rouge avec lequel un des enfants joue. Il y a un ballon bleu et noir avec lequel un autre des enfants joue. Il y a des papillons, parce que les papillons, on les retrouve à la fois dans le labyrinthe et auprès de la femme qui est couchée au centre du chemin de Jérusalem. Il y a des billes, parce que les enfants jouent avec des billes, dans le labyrinthe aussi.
Agnès Guillaume, plasticienne.
J'ai pris une liberté avec le chemin de Jérusalem, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser donc celui qui est au sol de la pièce, au lieu de laisser ce chemin de Jérusalem vide, j'ai collé, de nouveau avec ce même système de papier autocollant, le mandala que j'ai utilisé dans la vidéo. Donc c'est un mandala de verdure qui est au centre du chemin de Jérusalem.
Agnès Guillaume, plasticienne. au château de Chimay, au musée des Beaux-Arts de Bruxelles.
Comme si le chemin de Jérusalem nous mènerait à la sérénité. Le mandala est un signe d'épanouissement, d'accomplissement, de sérénité.
Agnès Guillaume, plasticienne, avec Anne de Rouvre, Pierre-Yves de Sèvres, Caroline Lamarche et Agnès Guillaume.
Surtout qu'il ne veut pas donner la clé de son soi. Là, il y a pour le moment une exposition qui est remarquable à Bruxelles, où il y a les quatre Four Mice.
Agnès Guillaume, plasticienne, au château de Chimay jusqu'au 15 octobre.
C'est flatteur qu'on lui ait demandé avant que le grand musée de Bruxelles le lui demande. Je suis très flattée de ça et les princes en sont très heureux, je pense que...
Agnès Guillaume, plasticienne, au musée des Beaux-Arts de Bruxelles jusqu'au 28 juillet.
Et puis, il y a toutes ces méduses qui sont ces symboles de... Oui, d'une geisha. En même temps, une méduse peut vous électrocuter et on peut en mourir. Mais j'ai lu récemment qu'une méduse avait le pouvoir de faire revivre.
Agnès Guillaume, plasticienne, au château de Chimay, au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, par Thierry Genicot.
Les trois écrans se passent dans ce labyrinthe de verdure, et sur l'écran de gauche, c'est une femme enceinte qui occupe le centre de ce chemin de Jérusalem. Je ne sais pas bien pourquoi elle est là. Je ne sais pas, c'était comme souvent les images que je fais, une évidence absolue que ça devait être comme ça. Quand des images me viennent en tête avec cette évidence-là, je ne les discute pas.
Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.